Bonjour, vous écoutez Vraiment Vous, une série de podcasts présentés par Reitmans et dédiée à celles qui portent bien leur voix. Au micro, Chris Bergeron. Alors pour ce dernier épisode de notre série de balado, on fait quelque chose d'un petit peu bizarre pour moi, parce que ça va être moi qui va me faire interviewer. Et donc j'ai demandé à une journaliste que j'admire beaucoup, Judith Lucier, de venir me poser quelques questions. Bonjour.
Bonjour Chris, comment tu te sens que les rôles soient inversés comme ça?
Très, très bizarre. Et puis, je dois dire que c'est pas du tout dans le rôle d'une publicitaire de faire ce genre de choses-là. D'habitude, on a tendance à s'effacer derrière le travail de nos clients. Mais là, Reitmans trouvait qu'on avait des choses à dire. Donc,
que tu avais des choses
que
à
j'avais
dire.
Des choses, tu vois, j'arrive même pas à parler au jeu.
Oui, ne minimise pas ta portée dans cette entrevue. Je suis très, très contente de faire l'entrevue avec toi, Chris. J'aime parler, tu sais, de diversité, particulièrement de diversité de genre. Et tu as souvent dit que ta transition avait changé ta façon de voir le monde, puis d'interpréter les autres. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu de quelle façon?
Absolument. J'ai fait ma transition tard dans ma vie. J'avais 40 ans. Donc, j'ai vécu les premières 40 années de ma vie dans la peau d'un homme qui avait l'air vaguement hétérosexuel.
Je me souviens de cet homme.
Mais bien sûr, on s'était rencontrés à cette période-là parce que j'étais journaliste, j'étais rédac-chef du journal Voir. Donc, on était des collègues. J'ai vécu tout ce privilège-là d'être un homme blanc hétéro. Ce privilège, en fait, c'est une sorte d'absence de questions par rapport à son avenir. En fait, il y a une foi aveugle dans l'avenir quand on est un garçon qui a un petit peu de talent et puis un cerveau qui fonctionne et qui a envie de travailler. Donc voilà. Et à partir du moment où j'ai basculé dans une sorte d'état plus minoritaire, on va dire, ou une forme de marginalité presque, qui est pas une marginalité de revenus, hein, évidemment pas. J'ai encore beaucoup de privilèges.
Tu restes une femme privilégiée.
Je reste une femme privilégiée, bien évidemment. Mais il y a plein de choses que j'ai perdues, c'est sûr. Le premier choc, probablement, c'est celui de l'absence de passeport. Il y a des endroits auxquels on n'a plus accès.
Ouais.
La rue. Marcher dans la rue, par exemple, c'est quelque chose de compliqué quand on nous regarde tout le temps. Mm-hmm. Et en tant que personne trans, ben c'est sûr que je fais 1m80. Ma transition, elle est un peu à mi-chemin. Donc, j'ai l'air un petit peu masculine, c'est sûr. Et donc, les gens remarquent tout de suite la différence et on me regarde. Avant, on me pointait du doigt. Avant, on m'insultait. Avant, on me crachait dessus même. Ça m'est déjà arrivé. Alors, évidemment, ça va un peu mieux aujourd'hui parce que les gens changent et puis la société change assez rapidement. Mais j'ai perdu ce sentiment de sécurité que j'avais partout où j'allais avant.
Oui, j'imagine que ta perte de privilège, ça passe beaucoup par le regard des autres sur toi. Est-ce que tu as remarqué une différence entre la façon qu'ont les hommes et les femmes de s'adapter à ta transition?
Alors, la plupart des femmes vont souvent me parler de courage.
Ah oui.
Vont me dire « t'es courageuse ». Peut-être aussi avec une sorte d'incompréhension de base, c'est-à-dire mais pourquoi est-ce que tu viens dans notre
ouais.
dans
pourquoi
notre
tu
club
veux notre trouble?
Mais oui, t'étais tellement bien dans l'autre. Et donc il y a ça. Je pense que certaines femmes sont même flattées de l'aspect le côté bienvenue quoi. Il y a une solidarité qui s'installe et c'est intéressant. Les hommes au début, surtout quand ils n'ont pas l'habitude de parler, de rencontrer des personnes trans, d'interagir avec des personnes trans, se sentent un petit peu plus mal à l'aise. Mm-hmm. Alors, ça peut aller carrément, ça peut être de la haine. J'ai reçu, toi, tu connais bien ça aussi, des commentaires en ligne très désobligeants, des menaces de mort, des choses très, très violentes, dans la rue aussi, des insultes. Mais ça peut aussi être tout simplement une sorte d'inconfort de base. Ouais.
Puis, tu évolues, bon, on le sait, dans le milieu de la publicité comme directrice. Bon, donc, tu es déjà dans une situation d'autorité, c'est pas mal. Mais est-ce que dans ton milieu, tu as vécu de la stigmatisation ou est-ce que c'est un milieu qui est particulièrement ouvert?
Alors d'abord, je suis vice-présidente.
Excuse-moi. Excusez-moi à la présidente ou au président.
Non, je rigole parce que justement, c'est un des trucs qui devient important quand on est une minorité. Le titre, directrice ou vice-présidente, ben vice-présidente, ça amène...
Ah oui, okay, je t'avais diminué, je m'excuse.
Tu m'as diminué.
Ah oui.
Ça, c'est une des choses qui a changé, évidemment. Je fais plus attention à mon statut qu'avant parce que mon statut, c'est mon passe-droit.
Ouais.
C'est le truc qui fait que j'ai le droit d'être parmi les gens normaux.
Ouais.
Donc, cette autorité-là, elle est absolument, absolument nécessaire.
Mais j'imagine que ça donne une sensibilité pour celles qui ne l'ont pas.
Aussi, ben oui, c'est ça. Et ça, c'est toute la, comment dire, la question de mon privilège, de mon ancien privilège, parce que ma carrière, elle s'est construite sur mon expérience d'homme.
Mm-hmm.
Et sur la fin, là, enfin, je suis pas à la fin de ma carrière, mais dans le deuxième grand chapitre de ma carrière, là, évidemment, c'est en tant que femme. Alors, pour répondre à tes questions sur le monde de la publicité, avant, j'étais journaliste. Donc, je dirigeais le journal Voir. J'ai été viré à peu près au moment où j'ai commencé à exprimer une forme de féminité. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas.
Ah ouais.
Je ne sais pas, je ne le saurai jamais.
Mm.
Et peut-être que même ça participe du subconscient chez les gens autour de moi. Mais il y a quelque chose qui a changé cette année-là, c'est sûr. Et j'avais pas l'impression d'avoir une place dans le journalisme. Je ne croyais pas à la possibilité d'être une femme trans en journalisme. Alors j'ai dû changer de métier. Et je me suis dit, le métier qui colle le plus au journalisme, c'est la publicité. Et en plus de ça, j'avais visité quelques agences et je trouvais qu'il y avait une ambiance informelle, créative, artistique. Il y avait des gens très intelligents qui travaillaient là aussi, que je connaissais un petit peu. Et je me disais... Bon, ben, cet univers-là, il est peut-être même encore plus ouvert que celui du journalisme.
Très intéressant. Je pense à ce qui se passe ces temps-ci. On est en pleine crise, questionnement sur les questions raciales. Est-ce que tu vois des liens, maintenant que tu as embrassé la cause LGBT par défaut, est-ce que tu vois des liens entre ces deux causes-là?
Le premier lien que je le ressens de manière émotive. C'est-à-dire que depuis les dernières semaines, je suis tout le temps en colère.
Ah oui.
Je suis en colère, j'ai envie de foutre le feu à ma vie, j'ai envie de vraiment, et parce que je me rends compte de toutes les petites agressions, micro-agressions ou carrément agressions dont j'ai été en quelque sorte victime, et la douleur des autres agit comme une sorte de miroir par rapport à ma propre douleur.
Tu fais
alors,
des liens.
Je fais des liens.
Tu ressens ce qu'ils peuvent vivre.
Exactement. Évidemment, chacun a son expérience propre. Donc, je ne fais pas de l'appropriation, mais il y a des parallèles à faire entre les différentes minorités, ça c'est certain.
Penses-tu, pour faire du pouce là-dessus, que tu aurais pu avoir cette même sensibilité-là en demeurant un homme cisgenre hétérosexuel,
non.
Blanc?
Non.
Non.
Non, parce que la différence, il faut la vivre pour la comprendre.
Mm-hmm.
Il faut la vivre pour la comprendre. C'est-à-dire, ce sentiment-là dont je parlais de ne jamais vraiment se sentir en sécurité, il est théorique
mm-hmm.
pour un homme blanc.
Mm-hmm.
Et il était théorique pour moi. Et là, il ne l'est plus du tout. Là, c'est ma réalité. Quoi qu'il arrive, c'est ma réalité. Si je voyage, c'est ma réalité. C'est tout le temps là. Donc, c'est pour ça, c'est ça l'importance aussi d'embaucher des gens qui sont issus de la diversité, parce qu'il n'y a que les gens issus d'une diversité qui peuvent vraiment comprendre l'ensemble des expériences. Donc, plus on travaille avec des gens variés, plus une organisation se donne la chance de mieux connecter avec les différentes communautés qui constituent
absolument.
Le Québec.
Trouves-tu que ça va assez vite, ces discussions-là?
En tout cas, ça s'accélère.
Mm.
Quand on regarde les 3 ou 4 dernières années, il y a une accélération énorme. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre le contre-pied de l'ère Trump. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'étais très pessimiste. Il y a 6 mois, j'étais très pessimiste. Et j'ai un peu l'impression, parce que à cause de Trump, il y avait un certain nombre de gens plutôt haineux qui se sentaient libérés. Tout d'un coup, ils avaient le droit de parler et en public et fort. Et j'ai l'impression que là, on est en train peut-être de revenir vers quelque chose d'un petit peu plus neutre, un petit peu plus mesuré. Et ça se fait en grande partie en réaction à la colère de gens qui disent « Non, arrêtez de nous traiter comme ça. »
Ouais. Dans le domaine de la publicité, vous êtes très bon pour absorber ces concepts-là, ces idées-là, puis en faire des campagnes sur la diversité, sur le principe d'égalité. C'est toujours très beau, ça donne des frissons. Est-ce que ça reflète véritablement des changements en profondeur, d'après toi?
Ben, évidemment, ça dépend des entreprises. Ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est d'abord, un, ne pas mentir. Et deux, être dans une sorte de transparence. En tout cas, c'est ça que moi, en tant que personne en publicité, c'est ça que je dis toujours à mes clients. Donc, de ne pas trop s'avancer sur des choses qui pourraient être contestées. Si on parle de diversité, ben dans ce cas-là, il faut qu'on soit sur la diversité et qu'il y ait des mesures en place. Ce qui est le cas en ce moment sur le projet qui nous intéresse sur Right Men's, ils font des choses qui sont intéressantes. Donc, il faut que ça soit fait de manière authentique.
Incarné. Il faut que l'entreprise reflète ça dans ses valeurs, dans sa... C'est
Absolument.
Politique à l'interne.
Il y a la notion de permission. Est-ce que le public me donne le droit de montrer une forme de solidarité? Parce qu'à cause des réseaux sociaux, tout est devenu très réactif. Si je dis ça, est-ce que les gens vont nous dire « Ah ben non, ce que tu nous dis, c'est n'importe quoi, en fait, t'es pas comme ça. » Et on l'a vu hein, sur Black Lives Matter, il y a plein de marques qui ont pris une certaine position et les gens disant « Mais en fait, dans la vraie vie, tu fais pas ça. » Donc, cette notion de permission, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Et qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour faire avancer cette notion-là de solidarité?
Je pense que ça va être extrêmement intéressant de surveiller ça dans les prochaines années, comment les marques vont... reconnaître qu'elles ont le droit ou pas.
Et ça passe par l'interne, c'est-à-dire que la culture interne et la culture externe des entreprises aujourd'hui, maintenant c'est la même chose. Alors qu'avant, il y avait un clivage entre ces deux aspects-là. On pouvait dire une chose et faire autre chose. Ça devient de plus en plus difficile dans le contexte actuel, à cause des réseaux sociaux, à cause de la vitesse du cycle des nouvelles. Faut faire attention, en fait. Et il y a des nouveaux postes qui sont en train d'être créés. Alors on verra dans les années qui viennent si ce sont des postes juste symbolique ou des choses qui sont sérieuses. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui engagent des gens dont l'objectif est justement d'amener de la diversité, que ce soit des postes existants ou carrément des Chief Diversity Officer.
Ouais.
On en voit beaucoup dans les entreprises américaines, c'est en train d'arriver au Canada aussi. Mais ça, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent à temps plein pour faire avancer cette cause-là.
Directeur du département d'être woke.
Mais c'est à peu près ça. Oui, tu rigoles, mais il y a un peu de ça.
C'est
drôle.
Oui. Dans le cadre de la campagne Vraiment Vous, tu t'es adressée à des femmes diversifiées, à toutes les femmes en fait que vous avez choisies pour la campagne, qui viennent évidemment de backgrounds vraiment différents. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en retires?
Qu'est-ce que j'en retire? Ben, d'abord, ce qui est très intéressant dans ce processus-là, et je pense que c'est... J'ai jamais travaillé sur une campagne qui a fait ça. C'est-à-dire, on a un film publicitaire qui est joli où on voit ces 7 femmes-là et qui déjà disent, utilisent leurs vraies paroles, en fait. C'est leurs vrais mots, des choses qu'ils nous ont vraiment dit, qu'on met de l'avant. Et déjà, ça, c'est formidable. Et le fait, après, de faire 9 épisodes de podcast et de leur parler et de passer 1 heure avec elles et vraiment rentrer dans leur intimité, dans leur motivation, ça, c'est quelque chose de très, très précieux qu'on ne voit pas souvent en publicité. Donc, ça m'a un peu ramené à mon ancien métier de journaliste, en fait.
Oui, c'est vrai.
C'est plus proche.
Entrevues.
Mais oui, et tout d'un coup, il y a une authenticité qui n'est pas travaillée, qui est beaucoup plus spontanée. Et c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Et je pense que c'est le genre de choses qui manque, enfin, que les consommateurs aiment voir aussi, ce côté plus naturel. Alors... Ce que j'ai appris, ce qui est intéressant en fait, c'est toutes ces femmes-là avaient en commun, je pense, une qualité et c'est la persévérance. Elles étaient toutes, je dirais, représentantes d'une forme de courage.
Comme on te dit, toi, quand on te dit t'es courageuse.
Mais voilà, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire, c'est presque dommage qu'on associe la féminité au courage. C'est un peu
dans le sens
signe.
Que quand une femme fait quelque chose d'extraordinaire, on
elle
trouve ça courageux. Ouais.
Elle est courageuse. Parce que j'imagine, on pense que c'est plus dur pour une femme de faire les choses.
Ah oui, ben, peut-être avec raison.
Et ça l'est. Et c'est ça le problème. Les femmes ont besoin de plus de courage pour avancer dans le monde.
Mm-hmm.
Et donc, c'est la première chose. Et c'est ça qui les unit toutes. Le courage, ensuite une forme d'ouverture sur l'autre. Ce sont toutes des femmes qui ont souffert d'une manière ou d'une autre et qui sont allées au-delà de leur souffrance et puis qui sont toutes dans la générosité. Elles sont toutes en train de réfléchir à ce qu'elles peuvent amener au monde.
Ouais.
Que ce soit une chanteuse comme Ariane Moffat ou Julie Black est une autre excellente chanteuse ou Ariana Lorraine qui fait des produits de cosmétiques mais à base d'ingrédients naturels et puis inspirés de sa culture autochtone. Ce sont des gens qui sont dans la générosité.
Le fait d'interviewer autant de femmes qui sont inspirantes, extraordinaires, mais aussi investies dans des causes. Est-ce que ça t'a donné l'impression, toi, le fait que je t'ai interviewé aujourd'hui pour cette même campagne, d'appartenir à une espèce de sororité extraordinaire?
Oui, bah peut-être pas nécessairement avec elles, parce que je les ai rencontrées qu'une ou deux fois. Mais en général, j'ai ce sentiment-là d'être dans le club des femmes.
Mm.
Et que c'est une sororité. Et ma relation avec les femmes, elle s'est construite autour de ça. Et c'est à travers cette notion de sororité que j'ai construit ma propre féminité, en fait. Beaucoup plus que par rapport, beaucoup plus qu'avec mon rapport avec les hommes.
Ouais.
On pourrait penser que la féminité, elle se joue aussi dans
un rapport à la séduction.
Dans un rapport à la séduction, ouais. Pas du tout. Ça se joue dans l'amitié. Ça se joue dans ce sentiment-là de vivre les mêmes choses, de partager les mêmes combats, d'être du même monde.
Mm-hmm. Ouais. Absolument. Qu'est-ce que les gens devraient retenir essentiellement de cette campagne?
Ben, la notion de porter sa voix, de ne pas avoir peur de s'exprimer. Il y a encore beaucoup de timidité chez les femmes, chez certaines femmes, qui est une timidité, je dirais, systémique. C'est-à-dire que souvent, elles sont dans des organisations où elles n'ont pas vraiment le droit ou de parler. Et donc parler, ne pas avoir peur de sa propre parole.
Mmh.
Ouais.
Qui t'inspire en ce moment?
Qui m'inspire? Ah, oh boy! Alors, il y a une autrice de science-fiction américaine qui s'appelle N.K. Jemisin et qui a écrit un roman, qui, The City We Became, qui est un roman qui est, je pense, le truc à lire en ce moment. C'est cinq personnes qui deviennent l'incarnation de New York, physiquement.
Ah,
l'incarnation
ouais.
de New York. Et alors, il y a toutes sortes d'aventures, évidemment, tu peux imaginer. Mais c'est un magnifique roman poétique, un peu de science-fiction, un peu fantastique, et qui parle de tout ce qu'on voit en ce moment sur nos écrans de télévision.
C'est drôle parce que j'ai entendu dire que tu étais en train d'écrire un livre en ce moment et que c'était pas nécessairement un essai là où je t'attendrais, mais plutôt un roman justement de science-fiction. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ouais, on m'a demandé de ma maison d'édition XYZ.
Ouais.
Alors là, tout d'un coup, c'est une pub dans la pub.
Ah, je suis désolée. J'ai ouvert la porte
oui,
là, pour
ça.
Que tu fasses ta promo.
Il y a une maison d'édition qui m'a appelé pour me demander en effet d'écrire quelque chose comme un essai, une sorte de mes mémoires ou quelque chose comme ça. Donc l'histoire d'une femme trans qui raconte tous les challenges dont on vient de parler. Et puis je me suis dit que quand même des livres comme ça existe. On en a déjà lu, je crois, il y en a, des témoignages comme ça. Et ce qui n'a jamais été fait, en tout cas j'ai l'impression, ou rarement, plus rarement, c'est un mélange des genres, et comme ma vie est un mélange des genres, ben, je me suis dit pourquoi pas la science-fiction.
Wow.
Et ça me permet aussi d'envoyer quelques avertissements. Donc le roman se passe en 2050, et je parle à un algorithme méchant.
Ah, wow.
Et je lui raconte ma vie.
Wow.
Voilà. Et donc, c'est à la fois des mémoires, mais aussi un roman d'anticipation. Alors, je suis en train de le terminer, justement, là.
Très hâte de lire ça. Ben, j'imagine quand même que tu aurais eu beaucoup de matériel pour écrire un essai sur les difficultés que tu as surmontées. C'est quoi les plus grands défis que tu as eu à affronter?
Alors, le défi principal, je dirais que c'est la peur. La peur de choquer, la peur de décevoir, ne serait-ce que ma famille. La peur de choquer mes collègues, les clients, juste par mon existence. La peur pour ma sécurité physique dans la rue. Et puis, c'est la peur qui a fait que j'ai attendu aussi longtemps avant de faire ma transition. Donc, l'apprentissage de la peur, c'est probablement... Et puis, comment avancer en ayant peur?
Est-ce que c'est quelque chose que tu as surmonté ou il y a encore un peu de peur en toi?
Ah, tout le temps, oui. En permanence.
Mais j'imagine qu'il y a une grande satisfaction d'avoir surmonté la plus grande peur qui était...
Ben, de faire le coming out.
Ouais.
Bien sûr, à partir de ce moment-là, ben, on se dit, c'est ça qui est marrant avec une transition, parce que c'est vraiment une transition, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est sur le long terme. Le coming out, et c'est peut-être ça la différence entre les personnes homosexuelles et les personnes trans, c'est que dans... Trans, il y a transformation.
Ouais.
Et donc, la transformation, c'est un processus qui est long et qui prend des années. Et il ne suffit pas juste de le dire. C'est pas un coming out, en fait. Mm. C'est le début, c'est une amorce. C'est un prologue quand tu le dis. Et après ça, il faut écrire le reste du roman, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qui est long et difficile et qui fait que, très souvent, je trouve ça trop difficile.
Est-ce que tu... Je sais que c'est pas une option, mais est-ce que parfois tu as envie de baisser les bras?
Oui, oui. Et puis, je le fais pas, mais bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, les effets secondaires des médicaments en permanence,
ouais.
Des hormones en permanence, jamais être bien. Ça fait 5 ans que je suis pas bien.
Mais que t'es mieux en même temps.
Et que je suis mieux. Alors,
ouais.
Voilà, c'est ça. Je suis mieux.
C'est un beau dilemme.
Je suis mieux psychologiquement. Je parlais à un ami récemment qui me disait que j'ai jamais été aussi radieuse et ouverte et tout ça, et en même temps je ne le sens pas,
ouais.
parce que moi je ne vois que mes effets secondaires, je vois que les trucs qu'on entend à la télé, la violence, tout ça, et puis je suis dans une forme d'activisme aussi, et donc j'imagine que, et c'est vrai pour beaucoup de femmes trans, on prend peut-être pas assez le temps de vivre nos victoires, quoi,
ouais.
De savourer nos victoires. Ouais.
J'imagine que ben, pendant cette transition, tu as parlé d'un processus qui est dans la lenteur. Est-ce que ta vision de la beauté ou de ce que c'est qu'une femme a changé, a évolué?
Ouais, ben, c'est très particulier parce qu'il y a une forme... d'abord, évidemment, c'est comme une vibration. Les femmes et moi, c'est-à-dire qu'on vibre sur la même fréquence. Et quand je dis les femmes, les femmes cisgenres, on vibre sur la même fréquence, il y a quelque chose, donc je sens comme un écho entre elle et moi. Et en même temps, je sens la différence majeure, c'est-à-dire je vois que mon corps est tellement plus grand, que j'ai des grosses pattes et des grandes mains et une grosse voix, et que j'ai l'impression d'être le loup déguisé dans les vêtements de la grand-mère,
ah,
dans
ouais.
Le petit chaperon rouge. Alors des fois, quand je suis avec mes copines et puis qu'on sort et tout ça, puis je les vois toutes belles, toutes fines et tout ça, et que moi je suis derrière un peu pataude, je suis fier de cet effet de sororité, d'être parmi elles, et en même temps, plus j'avance dans ma transition, plus je vois ma différence qui se creuse. Et bon, il faut que j'apprenne à internaliser la notion que la féminité, c'est pas ressembler à un magazine de mode. La féminité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et justement, quand j'ai commencé ma transition, j'étais tout le temps dans des robes, dans des talons très hauts, très maquillés, machin. Je surjouais la féminité. Là, aujourd'hui, on voit pas, mais je suis presque habillée en garçon. J'ai un jean et une chemise ample.
Comme
et...
plein de filles s'habillent sans se poser de questions tous les jours. Moi, je suis toujours habillée comme
voilà.
Ça.
Ben voilà. Donc, la féminité, finalement, maintenant, je la vis de manière beaucoup moins accessoire.
Ouais, c'est le récit que plusieurs femmes trans m'ont fait, vraiment d'avoir changé, d'avoir pensé au départ qu'il fallait atteindre
certains critères,
certains critères
des paliers presque.
Ouais. Pallier, aller vraiment plus loin que ce que le client demande.
Exactement. Mais ça, c'est pas très bon pour la santé mentale.
Mmh. Mais ni pour les femmes cisgenres comme moi. Je veux dire, quand tu dis je dois plus ressembler à des femmes dans les magazines, aucune femme.
Ben voilà.
Doit ressembler à ces femmes-là. Je veux dire, elles sont correctes, là, mais...
Non, bravo pour elles.
Bravo pour elles. C'est pas un critère de succès. Qu'est-ce que le sens du mot pouvoir a pour toi? Est-ce que ça a changé?
Ah ben, complètement.
Ouais.
Mais alors avant, c'était vraiment le pouvoir que j'avais sur des gens. C'était le prestige, le pouvoir et le prestige. Quand j'étais rédac-chef, là, il y avait un peu de ça. Il y avait la fierté. Il fallait avancer dans la vie pour aller chercher des titres. Mais un titre juste pour flasher, quoi. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'essaie d'avancer dans ma vie et évidemment, j'ai encore de l'ambition. Mais maintenant, je sais que je le fais pour des notions plus symboliques, quoi. Pour montrer aux autres filles trans que c'est possible de faire ci ou de faire ça.
Mm-hmm.
Donc ça a énormément changé. Aujourd'hui, mon pouvoir, c'est une plateforme pour faire évoluer les choses.
Ouais, c'est plus pour toi, personnellement, ou pour...
Non.
Ton propre avancement.
Non, ça m'intéresse plus, ça.
Est-ce que ton évolution a modifié aussi ta notion de communauté?
Complètement. Avant, ça m'a pris du temps avant de comprendre que je faisais partie d'une communauté. L'idée que des gens fassent partie d'une même communauté uniquement sur des bases identitaires était quelque chose d'abstrait pour moi. Et j'avais du mal à le comprendre, en fait. Et il faut vivre certaines expériences pour se dire que oui, les communautés d'expériences existent.
Mm-hmm.
Des gens qui vivent les mêmes choses, qui sont face aux mêmes problèmes. Quand on est trans, ben, c'est dur de se faire soigner. C'est dur d'avoir la science... Trans n'existe pas tant que ça. Donc, c'est dur à avoir la bonne information. Souvent, je dois dire à mes médecins, non, mais telle drogue par rapport à tel médicament, par rapport à tel autre. Donc, vraiment, on doit les éduquer. Donc, c'est ça, je me rends compte qu'il faut aller chercher de l'aide et que ce sentiment-là d'entraide entre les femmes trans, il est absolument essentiel. Et j'avoue ne pas passer assez de temps, parce que je suis très occupé avec j'irais physiquement avec des gens de la communauté. Je fais beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, mais comme je fais des journées souvent très longues...
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des sujets qui sont clos pour toi, que tu dis, on devrait passer à autre chose?
Des sujets clos, je trouve pas. En fait, je pense que dans les dernières années, on s'est rendu compte que on pensait, par exemple, que les femmes étaient respectées au travail et après ça, il y a eu MeToo.
Ouais.
On pensait qu'on était dans une ère post-raciale après Obama. Eh bien, finalement, pas du tout. Et là, on pense que les femmes trans sont acceptées, peut-être pas autant qu'on le croit.
Ouais.
Donc, je pense qu'à partir du moment où on se dit ça, c'est réglé, on se repose sur nos lauriers et les fantômes d'hier reviennent à la charge.
C'est dangereux, en fait.
C'est très dangereux.
Ouais. Est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé?
Alors, des mentors trans, malheureusement, pas beaucoup. Au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, si très récemment, mais...
Du côté américain.
Donc, c'est beaucoup toute la belle équipe qui a travaillé sur Transparent et Pose et toutes ces émissions de télé-là. Oui, là, c'est ça mes mentors, entre guillemets, mais c'est des gens à qui je ne parle jamais. Et ensuite, j'ai des mentors femmes.
Oui.
Donc, voilà, ma patronne, certaines collègues. Voilà, mais le mentorat, pour moi, il est au quotidien. Et c'est plus, je vais le chercher auprès de femmes, oui.
Puis, est-ce que c'est un mentorat qui est personnel ou plus professionnel?
C'est un mélange des deux.
Oui, c'est toujours ça, en fait.
C'est un mélange des deux. On se rend compte souvent, surtout dans le mentorat professionnel entre femmes, que tout de suite, on parle du personnel. Parce que le travail, c'est tout de suite, d'abord, souvent des relations de pouvoir, et ça c'est personnel.
Ouais.
Et puis on parle beaucoup d'équilibre, famille, travail, tout ça, et ça c'est personnel. Donc le personnel, il n'est jamais bien loin.
Comme on a déjà dit, personal is political.
Mais c'est
vraiment
ça.
C'est tellement
vrai. C'est
vrai.
Ça. Oui.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ouf, avis.
Avis, pour tout l'ensemble de l'œuvre.
Oh boy, j'ai envie de dire un truc. Mais en fait, alors c'est drôle, quand j'avais, je sais pas, 20 ans, 21 ans, je travaillais pour Roch Demers.
Ah oui?
Ouais, le mec qui a fait Opération Beurre de Pinot et tout ça, quoi.
Les comptes pour enfants.
Les comptes pour enfants. Et il m'a dit un jour que je démissionnais, je faisais ces coms, j'ai démissionné pour aller travailler dans une start-up, et il m'a dit, tu peux faire ce que tu veux, essayer de faire de la pub, essayer de faire du journalisme, essaye, mais de toute manière, toi, t'es écrivain.
Ah oui? Et puis là, ça va se concrétiser,
oui.
Là.
Alors voilà, c'est peut-être ça.
Comme,
le plus...
je sais pas combien d'années plus tard.
Oui, alors c'est peut-être une prophétie.
Ah, ben je te souhaite.
Ça se trouve, ça va être nul.
Non, si Roc de Mer se dit que t'étais écrivaine, t'es écrivaine.
Ouais.
comment t'arrives à inspirer les jeunes avec qui tu travailles puis à créer un lien avec eux? C'est très jeune, ton milieu.
Ça a été difficile au début et je pense que je ne le faisais pas avant, en fait.
Ah oui?
Tout simplement. Dans mes premières évaluations, j'ai toujours eu des équipes assez importantes, pas mal de gens, surtout au voir. J'avais 40, 50 personnes avec qui on travaillait, puis après ça, plein de pigistes. Et systématiquement, les gens disaient que j'étais trop autoritaire. Et puis après ça, ça a été la même chose quand je suis passé en agence. On m'a souvent reproché de ne pas m'intéresser aux autres.
Ah,
peut-être
ouais.
Parce que je passais beaucoup de temps à essayer de comprendre qui j'étais et de rentrer dans un moule,
mm-hmm.
C'est-à-dire de jouer le mec. À partir du moment où j'ai arrêté ça, où je suis devenu moi-même, j'ai pu me tourner vers les autres et m'intéresser à leur croissance, à leur carrière. Et là, aujourd'hui, ça passe par l'écoute. Mm-hmm. En fait, c'est très peu parler, c'est très peu donner des conseils, c'est surtout écouter les gens et recevoir ce qu'ils ont à dire.
T'avais pas de disponibilité?
J'avais pas de disponibilité.
Ah, c'est intéressant.
Exactement.
Quels sont les défis associés au leadership féminin, selon toi?
Ben, c'est dur. Se faire prendre au sérieux, malheureusement, mm-hmm. Je crois que c'est le truc le plus c'est le truc le plus difficile parce que il y a toujours ce doute là. Généralement, ça se passe plutôt bien pour la majorité des gens, mais on lit dans les journaux toutes ces histoires et puis on se rend compte que le sexisme, il apparaît dans telle entreprise et telle autre entreprise, puis des entreprises qu'on valorisait avant, très connues, on le voit dans les journaux aujourd'hui, et ça vient un petit peu semer le doute,
mm-hmm.
au quotidien dans la vie des femmes, je pense.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, c'est ça, quoi. C'est comment rester leader tout en apprivoisant ce doute-là, vivre avec et ne pas se laisser paralyser par le doute, quoi.
Puis, est-ce que tu as vu des avantages à être patronne en tant que femme?
Alors d'abord, il y a le grand avantage, parce que là, je dis du mal de l'expérience masculine, mais c'est dur d'être un homme aussi.
Ah ouais?
C'est dur, il y a plein de choses qui sont dures. Peut-être que c'était particulièrement dur pour moi parce que j'étais pas douée, mais il y a essayer de rentrer dans ce rôle-là, très râbleur, très être sur le succès tout le temps, dans la performance souvent. Ça, c'est pas facile et ça crée de la frustration. Donc, bizarrement, je suis assez contente de ne plus être dans ce mode-là. Alors, ce qui m'a permis, je pense, de réfléchir ma vie autrement, de parler de mes émotions plus, de me placer en relation aux autres aussi,
mm-hmm.
d'imaginer ma vie par rapport à par rapport au relationnel, quoi.
Ouais. On parle beaucoup de féminisme intersectionnel ces temps-ci, puis pour certains, ça peut être assez rébarbatif comme terme, c'est très quasiment universitaire, mais j'imagine qu'en publicité, ça peut être quand même un outil. Comment tu intègres ce concept-là dans ta pratique?
Alors, c'est sûr que nous, on n'est pas des grands théoriciens en général de la sociologie et de ces sciences-là et de ces termes très, très techniques. On sait qu'aujourd'hui, à travers cette notion d'intersectionnalité-là, derrière ça se cache, entre guillemets, la notion peut-être plus publicitaire de la solidarité entre les gens,
mm-hmm.
et de l'écoute.
Mm-hmm.
Alors, l'intersectionnalité, c'est dur à dire déjà. Alors, c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va faire avancer, qu'on va...
Ça ne sera pas le slogan d'une campagne de publicité.
Exactement, il n'y aura pas de campagne intersectional. Ça
ne
marchera pas.
Mais ça peut
pas.
S'incarner dans une publicité comme celle de Reitman.
Et voilà, et ça s'incarne dans le produit, ça s'incarne dans une volonté de changement, ça s'incarne dans des marques qui disent « moi aussi j'ai envie de montrer que je suis solidaire et de faire acte de solidarité
». Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux valoriser nos pairs?
Je parlais de l'écoute. Et puis la responsabilisation aussi, c'est vachement important. je donne souvent une conférence qui s'appelle Losing My Privilege, perdre mes privilèges, qui est un petit peu ce que j'ai vécu. Et en même temps, je dis, ben, c'est bien parce que on me donne un traitement un peu spécial au bureau. On me protège un petit peu des fois parce qu'ils savent que la santé, c'est pas génial, parce qu'ils savent qu'il faut pas trop m'en mettre sur les épaules, sinon je vais exploser. Et puis aussi, ils me réservent du temps pour que je puisse faire l'éducation que je fais, les conférences et tout ça. Et donc, ce que je retiens plus largement de ça, c'est, bah, c'est très, très bien de donner, de se plier un petit peu aux spécificités des gens, parce que en faisant ça, ben ça libère de la valeur pour l'entreprise. Ça libère beaucoup de valeur, en fait, qui est peut-être pas le truc qui avait été planifié à la base. Je suis pas rentré chez Cossette pour devenir porte-parole de la diversité. Et puis c'est arrivé un petit peu par hasard. Et c'est en train d'arriver, ça continue. Et peut-être que c'est ça l'avenir de ma carrière, je sais pas. Et donc voilà, laisser les gens grandir comme des arbres.
Puis devenir toutes les porte-voix dont on a besoin dans la société.
Ben voilà.
C'est quoi tes prochains défis, Chris?
Alors, les prochains défis, ben, c'est continuer le travail d'éducation. J'aime beaucoup la campagne qu'on vient de faire pour Right Men's et j'aimerais faire d'autres campagnes qui participent à cet esprit-là de solidarité. Et puis, l'écriture, et surtout essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Parce que quand on est en ce moment trans, quand on fait partie d'une communauté et qu'on parle beaucoup, toi tu le sais aussi, on est très demandé. Et là, j'ai un peu l'impression d'être un peu, porte-parole. Là, aujourd'hui, j'ai une journée remplie de travail. Ensuite, à 4h30, dans 2h, je vais faire une conférence. J'ai un autre truc à 8h du soir, ça n'arrête pas. Alors, peut-être un petit peu de... Avoir un métier plutôt que trois.
Ouais, incarner une cause, souvent, c'est faire beaucoup, beaucoup de travail bénévole pour sensibiliser, éduquer. Ouais. Ça ne devrait pas toujours être notre travail. Des fois, ça devrait être pris en charge par des clients comme Redmond, ce qui te donne l'opportunité de t'exprimer.
Oui.
Merci beaucoup, Chris.
Merci à toi.